Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, au milieu de ce carême, de cette retraite collective de 40 jours, ayant pour but de nous préparer aux solennités pascales, retraite d'ailleurs si collective cette année que l'englobe presque tout le globe de la terre, la Sainte Église nous fait lire dans l'Évangile le récit de la multiplication des pains. Plus précisément, de la première multiplication, car il y en avait deux. Voyons donc comment ce miracle se déroula-t-il. À l'occasion, nous ajouterons quelques explications spirituelles. Puis nous allons en tirer une seule, mais combien importante aujourd'hui, conséquence pratique. Essayons d'abord de situer cet événement. Les apôtres viennent de revenir de la mission que notre Seigneur leur a confiée. Ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et dit en son nom. Malades guéris, démons expulsés, pécheurs amenés à la pénitence. Quand ils sont tous réunis, Jésus les fait monter sur une barque et leur ordonne de cingler vers un point solitaire de la rive opposée. Ce qui l'y pousse, c'est le désir de converser cœur à cœur avec ses apôtres et leur ménager un peu de repos après le dur labeur de la mission. Pas de chance. La foule qu'il vient de quitter les voit s'éloigner, devine leur dessein et se met à leur poursuite par la voie de terre. Plusieurs franchissent cette distance avec tant de rapidité qui devance les apôtres au lieu du rendez-vous. Ceux-ci, en abordant, comprennent bien vite que le long tête-à-tête ne sera plus possible, car la foule des assistants grossit toujours. Jésus, touché de compassion à la vue de ces gens qui faisaient penser à un troupeau sans pasteur, guérit d'abord quelques malades, puis il s'éloigne un peu du rivage, s'assoit sur le versant de la colline et parle aux assistants du royaume de Dieu. Les heures passent rapidement et, oubliant elles-mêmes tout besoin matériel, les foules ne songent pas à se séparer du maître bien-aimé. Elles ne manifestent ni lassitude ni impatience. Cependant, la nuit approche. Le problème du ravitaillement est ce qui presse le plus. Ces gens ont faim. Il faut qu'ils puissent trouver de quoi manger. Il suffit de les laisser aller dans les fermes et les petits hameaux des environs. Ils y achèteront ce qui leur est nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, répond notre Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. C'est comme s'il disait: ah mais non, il n'y a pas à congédier ces gens, c'est à nous de les nourrir. La bonne hospitalité le demande. Jésus prépare ainsi tout doucement les siens au miracle en excitant leur foi. Ils lui répondent: oui, nous irons acheter pour 200 deniers de pain et nous leur donnerons à manger. Il y a là quelque ironie dans leur réponse. C'est trop peu pour nourrir cette foule immense, sans compter que la bourse des apôtres ne contenait probablement pas cette somme. Cependant, Jésus ne demeure pas de son idée. Voyons, dit-il à ses apôtres, de quoi disposez-vous? Rendez-vous compte de ce que vous avez et commencez par donner cela. Tout compte fait, on ne trouve plus que 5 pains et 2 poissons restant d'une salaison. Comme ravitaillement, c'est dérisoire. Eh bien, apportez-moi cela, réplique Jésus. Jusqu'alors, Jésus n'a jamais opéré de miracle sans en être prié. Cette fois, il prend lui-même l'initiative. Et il donne l'ordre, littéralement, de faire mettre tout le monde à table, comme pour un banquet. C'est donc vers le soir, en pleine nature, sur un terrain d'herbe verte, que Jésus ordonne à ses disciples de faire étendre sur ce tapis de printemps la multitude de convives. Les apôtres les groupent par carrés de 100 ou de 50, tant pour éviter le désordre que pour la commodité du service. C'est ainsi qu'on a pu évaluer le nombre approximatif, environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Quand ces 5 milliers d'hommes sont installés, notre Seigneur prend au milieu d'eux l'air solennel d'un maître de maison qui ouvre un grandissime festin. Il se fait apporter les 5 pains et, levant les yeux au ciel, il les bénit et les rompt. Les pains se multiplient dans ses mains à mesure qu'il distribue, les poissons de même. Les disciples, surtout les 12, font la distribution et la multiplication continue. Le prodige était vraiment grandiose. Tous ont mangé, tous ont été rassasiés. Les invités ont mangé de bon appétit. Comme en noces de Cana, Jésus fait les choses libéralement. On leur donna du pain et du poisson autant qu'ils voulaient. À cette foule qui a supporté une fatigue considérable et qui est demeurée de longues heures sans manger, elle a eu vraiment un grand besoin de nourriture. Le nombre de convives était énorme, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Enfin, lorsque tout le monde est rassasié, et pour mieux attester la réalité du miracle, Jésus donne l'ordre de recueillir les restes, en tout 12 corbeilles. Ainsi, afin que rien ne se perde. C'était chez les Juifs la coutume de ramasser les miettes dispersées sur la table. Le pain, principal soutien de la vie de l'homme, était à leurs yeux quelque chose de sacré. C'était d'ailleurs l'indice d'un noble repas et d'une maison bien tenue. Deux idées à retenir du récit de la première multiplication des pains. Premièrement, ce pain qui se multiplie par un simple acte de volonté de notre Seigneur. Cela fait penser à une autre nourriture, un autre pain, pain des anges descendu du ciel sur la terre, l'Eucharistie. Saint Jean évoquait que la Pâque était alors toute prochaine. Et la Pâque de l'année suivante, le Sauveur donnera, sous les espèces du pain, son corps à manger. En outre, même sur un point purement extérieur, il y a une analogie frappante entre l'institution du Très-Saint-Sacrement au Cénacle et non après, et ce miracle. De part et d'autre, les gestes de Jésus-Christ sont identiques. Il prend le pain entre ses mains, lève les yeux au ciel, rend grâce à Dieu et rompt l'aliment mystique. Deuxième idée qu'il faut retenir de ce miracle est la personne même du thaumaturge. Notre Seigneur remplit déjà son rôle du bon pasteur qui se fait nourricier de son grand troupeau. Pasteur à la fois bon et tout-puissant, qui voit la foule, qui voit sa détresse et qui, dans une miséricorde infinie, la nourrit tout entière. Chers fidèles, malgré 2000 ans d'écart qui nous séparent de ce miracle de la multiplication des pains, notre Seigneur ne perd rien de sa bonté et de sa toute puissance. Il sait très bien nourrir son troupeau du pain céleste, même si nous en sommes effectivement, physiquement privés, comme ce jour-ci où beaucoup ne peuvent plus se rendre à la messe. Rappelons-nous alors que nous pouvons obtenir les grâces de la communion sont communiés sacramentalement. Comment est-ce possible? Par la communion dite spirituelle. Juste trois mots. Qu'est-ce que c'est la communion spirituelle? Quels sont ses effets? Et pratiquement, comment la faire? Communier spirituellement, c'est s'unir à Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant sacramentalement, comme à la messe, sur la langue, mais par un désir, mais désir qui procède d'une foi qui est animée par la charité. C'est un désir. Toutes les fois que tu me désires, disait notre Seigneur à Sainte Mechtilde, tu m'attires à toi. Un désir, un soupir suffit pour me mettre en ta possession. C'est un désir, mais qui est inspiré par la charité. La communion spirituelle requiert donc l'état de grâce. On va l'expliquer tout à l'heure. Quels sont les effets de la communion spirituelle? Ils sont de même nature que la communion eucharistique. Elle nous transforme en Jésus-Christ, elle nous incorpore à lui. Mais bien sûr, ces effets, à égalité de disposition, sont moins abondants que dans la communion sacramentelle. Cependant, il se peut que la communion spirituelle d'une âme très fervente, inspirée par une foi intense dans la Sainte Eucharistie, un grand amour de Jésus hostie, il se peut qu'elle l'emporte sur la communion sacramentelle d'une âme tiède et distraite. Enfin, la communion spirituelle, pour être fructueuse, suppose l'état de grâce. Mais il n'est pas nécessaire de se confesser. Un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire qui vient de la considération de Dieu infiniment aimable en lui-même, qu'on offense par le péché, aussi de la considération de sa passion, qui est causée par mes péchés. Alors cet acte de contrition suffit pour retrouver l'état de grâce, si l'on l'a perdu, à condition qu'on ait la ferme résolution de se confesser dès que possible. Très bien, cela paraît intéressant, mais comment faire? Les actes de la communion spirituelle sont du même ordre que ceux qui précèdent, accompagnent et suivent la communion sacramentelle. Foi intense envers l'Eucharistie, désir confiant, contrition, pureté d'intention. On peut se servir pour cela du petit missel des fidèles en lisant quelques prières avant la communion et après aussi, celle d'action de grâce. Ou bien, cela peut être un acte assez court comme celui-ci. Je crois, ô Jésus, à votre présence dans le Saint-Sacrement. Je vous aime et vous désire. Venez dans mon cœur. Je vous embrasse. Ne vous séparez plus de moi. La communion spirituelle peut se faire en tout temps et en tout lieu, aussi souvent que l'âme le désire. Elle n'exige ni le jeûne, ni le ministère du prêtre. Enfin, la pratique fervente et fréquente de la communion spirituelle est la meilleure préparation éloignée à la communion sacramentelle. Le bois dont on entretient la chaleur est toujours prêt à s'enflammer. Celui donc qui désire fréquemment s'unir à Jésus hostie par la communion spirituelle s'embrasera facilement lorsqu'il communiera pour de vrai. Chers fidèles, le dimanche de l'Étare tombe cette année entre deux fêtes, celle de Saint Joseph, 19 mars, et celle de l'Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie, 27 mars. Que Notre-Dame, de qui Jésus-Christ a été formé, que Saint-Joseph aussi, dont les suiveurs ont fait croître son fils adoptif, le pain vivant, que tous les deux nous apprennent à bien communier spirituellement, pour nous préparer ainsi à la communion pascale qui sera sûrement la plus fructueuse de notre vie jusqu'à présent parce que la plus désirée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.